Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lanceurs d'alerte, conflits d'intérêts, délais déraisonnables, mais aussi escroqueries, tromperies, aveuglement, réseau d'influence. Tous ces termes, on les a entendus à la radio, on les a lus dans la presse et on les retrouve dans l'affaire du Mediator. 9 ans après avoir été révélé au grand public ce scandale, cette affaire devient aujourd'hui le procès du Mediator. Même si ce n'est pas la première fois que ce scandale sanitaire passe devant la justice. Et c'est un procès fleuve qui débute aujourd'hui. 6 mois de débat qui s'annonce devant le tribunal correctionnel de Paris. Le groupe pharmaceutique Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament, ex-AFSAPS, vont devoir répondre de leurs actes et de leurs choix, répondre aux accusations de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires, escroquerie. 11 personnes morales, 12 personnes physiques jugées, près de 5000 victimes, dont 2684 qui se sont portées partie civile. Procès hors norme pour cette affaire, désignée par le nom de cet anti-diabétique, détourné de son usage comme coupe-faim et prescrit pendant plus de 30 ans à près de 5 millions de patients en France. Un médicament à l'origine de graves complications pulmonaires et cardiaques qui aurait provoqué au moins plusieurs centaines de morts. Une affaire qui a aussi jeté le discrédit sur les autorités de sécurité sanitaire et poussé ces autorités à réorganiser l'agence nationale devenue depuis ANSM. L'affaire Mediator, révélée dès 2007 par le docteur Irène Frachon, alors pneumologue à Brest et toujours pneumologue à ce CHU. Nous allons bien sûr évoquer les différentes étapes de l'affaire, tenter avant tout de comprendre aujourd'hui dans Priorité Santé ce qui a changé depuis le scandale du Mediator. Pour les médecins, pour les labos, pour les patients, en a-t-on fini avec les conflits d'intérêts? L'évaluation des médicaments s'est-elle améliorée? La France s'est-elle dotée d'une agence de sécurité sanitaire capable d'assumer réellement son rôle? Ces questions vont tenter d'y répondre au cours de cette émission avec nos trois invités. Professeur François Chaste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien des hôpitaux de Paris. Vous présidez, professeur Chaste, le comité des vigilances et risques sanitaires à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Avec nous également à ce plateau, Bruno Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur éditorial de la revue Prescrire et nous verrons comment votre publication dès 2008 s'est interrogée sur l'attitude des autorités sanitaires face à ce médicament. Nous serons en ligne avec le docteur Dominique Michel Courtois, qui est président de l'association d'aide aux victimes de l'isoméride et du Mediator.
Priorité santé sur RFI.
Alors, votre revue, Bruno Toussaint, vient de publier un recueil de photographies et de textes qui donne visage et corps aux victimes, essentiellement des femmes opérées du cœur après avoir pris du Mediator. Marie-Thérèse, 6 ans de Mediator, 2 valves cardiaques opérées, Karine, Christiane, Nadine, Massouma, elles sont nombreuses. Il y a aussi quelques hommes, des survivants, des visages, des cicatrices, des paysages, des instruments en salle de chirurgie, photos de Marc Dantan, du noir et blanc, et la préface d'Irène Frachon. Alors, avant de vous donner la parole, messieurs professeurs Chaste et vous, Bruno Toussaint, on va justement entendre cette voix du docteur Frachon, celle qui a travaillé, enquêté, donné l'alerte, celle qui n'a pas lâché l'affaire. Elle avait raconté à Valérie Cohen, au mois de juillet dernier, précisément les circonstances dans lesquelles elle s'était lancée dans ses recherches. Le travail, c'est d'abord celui d'un médecin à l'écoute de ses patients.
Alors donc, mes premiers soupçons, ils datent d'une expérience que j'ai eue, puisque j'ai réalisé que j'ai été témoin, jeune médecin, du fait que l'isoméride était un poison mortel et toxique pour de jeunes femmes, et l'isoméride était un coupe-faim de Servier. Donc, 10 ans après l'interdiction de ces coupe-faim, je réalise que des patientes souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire, sont sous Mediator. Je suspecte le Mediator d'être en fait un coupe-faim, comme l'avait été l'isoméride, toujours commercialisé par Servier. Donc je fais une double enquête, une enquête d'abord médicale, pour j'examine les cas d'hypertension artérielle pulmonaire, puis j'examine avec mes collègues cardiologues les cas de valvulopathie, puis je vais me tourner vers le centre d'investigation clinique pour faire une étude épidémiologique qui établisse un lien statistique entre l'exposition au Mediator et la survenue de valvulopathie. Donc ça a été une enquête scientifique qui a duré 2 ans et demi. Parallèlement, j'enquête pour savoir ce qu'est le Mediator, parce qu'il n'y avait aucune information. Servier m'envoie un document trompeur me disant que le médiator n'avait absolument rien en commun avec l'isoméride, que c'était des produits radicalement différents. Heureusement, j'ai eu le réflexe de poser la même question à la revue Prescrire, une revue indépendante de l'industrie, et qui, elle, m'adresse en retour des études des années 70 qui avaient été publiées par les chercheurs de Servier, mais qui n'étaient pas accessibles. Et ces études disaient formellement que le médiator était un dérivé de l'isoméride. Donc, la même famille de molécules. Là, je comprends qu'il y a manifestement des mensonges et des tromperies et que tout est possible. Là, on bascule dans la pharmacodélinquance, dans le roman policier un peu. Hein, là, je quitte l'enquête scientifique et puis j'arrive dans le polar, quoi. Je me dis, ben, ils mentent. Et s'ils mentent à tout le monde depuis 30 ans, eh ben, tout est possible, y compris une catastrophe sanitaire inouïe.
Le docteur Irène Frachon, un médecin pneumologue au CHU de Brest avec Valérie Cohen, médiator du groupe Servier, tiré du marché français en novembre 2009. On va le voir, les dates sont importantes hein, dans cette affaire. Le fondateur du groupe, Jacques Servier, lui est décédé en 2014. Premier procès pénal pour le docteur Frachon, c'est une étape majeure. Alors avant de revenir justement à la composition de ce fameux produit, ses indications, ses effets, professeur François Chasse, sur le volet, on a entendu le terme de délinquance médicale, pharmaceutique. Maintenant, cette étape judiciaire, est-ce que pour vous aussi, l'étape de la justice, c'est quelque chose de très important, vous qui êtes spécialiste des risques sanitaires ?
Bien, écoutez, d'abord, je voudrais rendre hommage à Irène Frachon, qui est, comme on dit aujourd'hui, a été le lanceur d'alerte sur cette affaire, et qui l'a fait dans un contexte de très grande violence à son encontre. Et donc, hommage appuyé, je dirais, à son action, car autour d'elle, il y avait au fond des résistances fortes, bien sûr, de la part de l'industriel en cause, mais aussi de tout l'environnement administratif, politique, scientifique, je mets volontiers des guillemets autour de ces substantifs, et beaucoup de résistances se sont opposées à la divulgation de cette vérité.
Est-ce que c'était une femme contre un système ?
Alors, c'était une femme qui s'est érigée contre un système, et je dirais que beaucoup d'institutions ont failli dans cette affaire. Au premier rang desquelles, moi j'en veux surtout aux sociétés savantes, aux académies, au pouvoir public, au pouvoir politique, qui s'est en permanence compromis dans des arrangements, qui a été sensible à des formes de chantage entre l'industriel et les administrations ou le politique, sur l'emploi, sur les équilibres économiques de l'industrie pharmaceutique. Bref, un ensemble de points sur lesquels Irène Frachon a eu la force, la conviction qu'il fallait aller plus loin que, je dirais, son environnement simplement hospitalier. Et elle a porté très haut et très fort et très bien ce combat. Et je pense que sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu aujourd'hui l'ouverture de ce procès au tribunal de grande instance de Paris.
Ça veut dire que certains laboratoires pharmaceutiques font peser leur poids, c'est-à-dire je suis Servier, je suis le numéro 2 de la pharmacie en France, derrière moi il y a tant de milliers et milliers d'emplois.
Oui, bien sûr, mais c'est peut-être pas là le problème. Qu'un industriel soit à la limite de la correction scientifique, on va dire, c'est presque dans sa nature.
Mais ce sont les garde-fous.
En revanche, on peut en vouloir aux administrations sanitaires, aux agences, aux sociétés savantes, d'être aveuglés par un certain nombre de signaux qui ont été donnés à tort et de ne pas discerner dans les messages de l'industrie pharmaceutique ce qu'il convient de retenir pour le profit des patients, et il y a à retenir, bien sûr, et ce qui est ou le mensonge, ou l'omission, ce qui revient à peu près au même.
Alors, il y a l'historique du médiator que la justice va examiner, les faits, les dates, les acteurs, travail colossal. On met justement en avant le caractère un peu spectaculaire et exceptionnel de cette affaire. 127 tomes du dossier d'instruction. Alors, si on s'en tient aux dates, justement, on entendait tout à l'heure le docteur Frachon s'exprimer sur ce volet. Dès 2008, la revue Prescrire écrit, je cite, « Le médiateur commercialisé en France depuis plus 30 ans, malgré une balance bénéfice-risque nettement défavorable, retirée de la vente dès 2003 en Espagne. » Alors, votre revue pose la question, donc, il y a 11 ans déjà, Bruno Toussaint, combien de victimes d'effets indésirables faut-il encore avant de prendre les bonnes décisions? Est-ce que cette question, eh bien, finalement, quelqu'un y a répondu? Pourquoi autant de temps?
Et on va sûrement apprendre beaucoup de choses lors du procès, enfin, on espère, en tout cas, à prescrire. Mais il y a déjà quelques pistes d'explication. En préalable, je vais rappeler que, en tant que rédacteur de Prescrire, je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune firme pharmaceutique, ni Servier, ni les autres. Prescrire, c'est financé uniquement par les abonnés. Alors nous, effectivement, à Prescrire, on a constaté, en examinant le dossier à fond, en se documentant, comme disait Irène Frachon, déjà en 1997, nous avions fait le point sur l'intérêt éventuel de ce médicament dans le diabète. Et nous avions vu qu'il n'y avait aucune preuve que ça diminue le risque de complications du diabète. Et de la même façon, dans l'excès de gras, pour faire court, dans le sang, il n'y avait non plus aucune preuve que ça diminue les complications cardiovasculaires. Donc pour nous, il était clair, dès la fin des années 90, qu'il n'y avait pas d'intérêt, pas d'utilité, pas d'efficacité démontrée à ce médicament, alors que son nom même, Benfluorex, signale que c'est une amphétamine, un anorexigène, un coupe-faim, et que donc il expose au danger des coupe-faims. Et ensuite, effectivement, nous avons suivi le dossier autant que nous pouvions, et au fil des années, nous n'avons rien vu de nouveau en matière d'efficacité. Et par contre, petit à petit, trop lentement, il a émergé enfin quelques données sur les dangers. Et effectivement, comme vous l'avez dit, là, en 2003, une publication espagnole, où là, c'est très clair, la victime n'a été exposée qu'au médiator, et elle a les problèmes valvulaires typiques de cette famille de médicaments. Et ensuite, nous avons rappelé au fil des années. En 2005, nous avons été assez vifs contre l'agence du médicament, qui manifestement était, on va dire, très inerte face au désastre, aux éléments du désastre. Et à l'époque, effectivement, le directeur de l'agence nous a expliqué, en substance, en résumé, que l'agence faisait très bien son travail et qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait une incrédulité, semble-t-il, parmi les dirigeants de l'agence des médicaments, l'incrédulité que ce médicament puisse être si dangereux et que la firme soit si fermée, on va dire, le comportement de la firme en faveur de son médicament. D'une façon générale, on observait à cette époque-là que l'agence du médicament, en France, comme au niveau européen, était beaucoup plus sensible aux intérêts de la firme qu'aux intérêts des patients. Et malheureusement, c'est ce qui s'est confirmé par la suite.
Et la question qui se pose, et on verra au cours de cette émission, c'est savoir si les choses, la balance a un petit peu changé. Un médicament antidiabétique, professeur François Chaste, utilisé comme coupe-faim, c'est certainement une question que se posent beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi les médecins prescrivent-ils justement un produit pour une indication qui ne correspond pas exactement à ce qui est imprimé sur la notice?
Est-ce que je peux répondre en vous rappelant une anecdote historique?
Allez-y.
Vous vous souvenez, ou vos arrière-grands-parents se souviennent peut-être, se sont souvenus du fait que, après la défaite de Sedan, le 4 septembre 1870, Paris a été assiégé par les Prussiens et les Parisiens ont été affamés. On mangeait les animaux du Jardin des Plantes. Et à cette époque, j'avais un prédécesseur qui avait été pharmacien-chef de l'Hôtel Dieu, Apollinaire Bouchardat, qui était devenu un spécialiste du diabète. Il avait ouvert, rue Chanoinesse, une consultation de diabétologie, recevait gratuitement tous les diabétiques de Paris qui avaient confiance en lui. Et d'un seul coup, à l'automne 1870, plus personne ne se présente à sa consultation. Il avait découvert le fait que des personnes qui ne mangent plus ne sont plus diabétiques. Et donc, l'effet anorexigène
entre dans le traitement.
A comme conséquence que moins on absorbe de calories et qu'on restitue ces calories en sucre, en graisse, assimilables dans le tissu adipeux, notamment des patients, eh bien moins on a de chances de devenir diabétique. Et donc, il faut se rendre compte qu'il y a des confusions qui ont été installées par l'autorisation de mise sur le marché du médicament, qui consistait à dire « ce médicament est utilisable dans le diabète » ou dans ce que l'on appelle de manière savante les hypertriglycéridémies, c'est-à-dire une forme d'excès de gras dans l'organisme. En réalité, il y avait un effet sur l'appétit qui consistait à faire maigrir les patientes, et cet effet avait comme aussi conséquence, mais alors là, toxicologique, d'avoir par la stimulation de certains récepteurs une toxicité très grave sur les valves cardiaques et les grosses artères des pulmonaires.
Oui, mais quand même, on ne prescrit pas un antidiabétique à des personnes qui ne souffrent pas de diabète. Ou alors je comprends pas.
Oui, mais alors il y a eu, si vous voulez, une forme de duplicité entre l'industriel, les prescripteurs. Ça a arrangé tout le monde de faire les choses sans les dire complètement.
Bruno Toussaint voulait réagir.
Oui, deux, trois choses. On parle bien là du diabète de type 2, c'est-à-dire des personnes qui en général sont plutôt un peu rondes, on va dire. Les diabétiques de type 1, qui manquent d'insuline, ils sont déjà maigres souvent. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc il ne suffit pas de les affamer pour les guérir, c'est autre chose. Il leur faut de l'insuline. Bien. Alors ensuite, effectivement, quand on maigrit, il y a un peu moins de sucre dans le sang. Mais le problème principal du diabète de type 2, c'est pas tellement le taux de sucre dans le sang, il est pas très élevé en général, on ne le ressent rien de particulier, c'est le fait que au fil des années, ça altère beaucoup d'organes, le cœur, les vaisseaux, les reins, les yeux, la rétine, les nerfs, etc. Et donc l'intérêt des médicaments du diabète de type 2, c'est pas tellement de faire baisser le taux de sucre dans le sang, c'est de limiter tous ces dégâts à venir, enfin le risque de tous ces dégâts. Bien sûr, ils n'arrivent pas chez tout le monde, tous ces dangers-là n'arrivent pas. Mais il y a un risque important. Donc, ce qu'on attend d'un médicament de diabète de type 2, c'est certes de faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais surtout c'est de réduire le risque d'insuffisance rénale, de devenir aveugle, etc. Et dans le cas donc du Benfluorex Mediator, la firme Servier a laissé dans l'ombre à partir des années 70, que ce médicament était un coupe-faim à une amphétamine et a mis en avant, pour son intérêt économique, une action dans le diabète. Alors effectivement, à très court terme, comme les personnes ont tendance à perdre du poids, si elles sont diabétiques de type 2, bah oui, le sucre diminue, le taux de sucre, la glycémie diminue un peu. Bon, et il y a beaucoup de médecins qui ont cru naïvement que effectivement, c'est utilisé dans le diabète, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Il y a des diabétologues qui en prescrivent, il y a beaucoup de médecins qui naïvement croient cela. Il y a eu aussi des médecins qui croyaient savoir que en fait, ça aide à maigrir. Alors ma foi, on s'en sert pour faire maigrir les personnes. Mais beaucoup de personnes, et y compris des victimes qui sont dans l'ouvrage dont vous avez parlé, eh ben ma foi, étaient des personnes diabétiques qui ont pris de bonne foi ce médicament parce qu'on leur prescrivait pour leur diabète. Et le problème est qu'en fait, ça ne servait à rien pour leur diabète. Et par contre, ça les exposait au danger de ce médicament.
Parmi les infractions jugées à compter d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris, suspicion d'escroquerie à la sécurité sociale, puisque l'assurance maladie Bruno Toussaint remboursait ce produit. Où est l'escroquerie là précisément?
Ah ben, c'est le procès qui va le dire. Moi, je ne suis pas juge.
Mais c'est sur le détournement de l'indication. C'est sur quoi précisément?
Alors, il se trouve que ce médicament était proposé ou autorisé comme adjuvant, etc., dans le traitement du diabète. Au fil des années, comme ça se voyait d'en prescrire, et aussi toutes les études, montraient pas d'action bien concrète en matière de prévention des complications du diabète. Et donc, manifestement, au bout de quelques années, on voyait bien que ce n'était pas un bon médicament du diabète. C'était clair qu'il n'y avait pas de raison que la solidarité nationale, la sécurité sociale, finance un médicament aussi peu intéressant et finalement même si dangereux. Mais il se trouve que effectivement, il est resté autorisé dans le diabète jusqu'à son retrait en 2009 en France et en 2010 au niveau européen, et toujours remboursable par l'assurance maladie. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi l'assurance maladie a été en situation de devoir rembourser si longtemps ce médicament? Parce que ce n'est pas l'assurance maladie qui choisit de rembourser. Elle rembourse les médicaments qui sont inscrits par les pouvoirs publics sur la liste des médicaments remboursables. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et qu'il faudra...
Quelles influences ont eu lieu, ont été exercées pour que ce médicament reste sur le marché et remboursable par l'assurance maladie dans des indications, comme on dit, c'est-à-dire des situations cliniques où en fait il ne rendait aucun service, si ce n'est en termes de chiffre d'affaires.
La question que le procès justement devra démêler, affaire complexe. Hein. Avant de vous retrouver pour parler de la sécurité de ces médicaments et des instances de contrôle, on retrouve en ligne le docteur Dominique Michel Courtois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association d'aide aux victimes de l'isoméride et du Mediator. Alors à l'origine, docteur Courtois, votre association défendait les patients dans le cas des aggravations de leur état de santé en prenant de l'isoméride. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de jumeau, hein, pour simplifier, du Mediator? En tout cas, deux substances qui ont une action sur l'appétit pour des personnes qui cherchent à perdre du poids. C'est bien ça?
Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce que je trouve absolument surprenant, c'est que lorsque on a interdit l'isoméride, presque de façon simultanée est arrivé sur le marché le Mediator, donc on sait que la molécule était très voisine, et on connaissait d'ailleurs toutes les complications cardiovasculaires liées à l'isoméride, et donc c'est effectivement une question qu'il faudra poser aux autorités de l'époque, c'est comment a-t-on pu mettre une autorisation de mise sur le marché et une autorisation de remboursement par la Sécurité sociale d'un médicament jumeau, d'un médicament qu'on venait de retirer à cause de sa dangerosité.
Je vous redonne la parole dans quelques secondes. Professeur François Chasse, vous voulez réagir?
Oui, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a eu tromperie. Mmh. Qui est d'ailleurs un des mots utilisés par le code pénal pour définir ce type d'infraction. Tromperie pourquoi? Parce que, au fond, isoméride, Mediator et aussi un troisième larron qui s'appelait le pondéral, se transforme dans l'organisme des patients en une substance unique qui s'appelle, c'est un peu savant, pardonnez-moi, la norphenfluramine. C'est cette substance qui est produite par les trois médicaments qui est à l'origine des problèmes cardiaques, pulmonaires ressentis par les patients. C'est elle qui va stimuler les récepteurs cardiaques et pulmonaires pour provoquer ces effets indésirables. Et donc, Servier, pendant très longtemps, a dit « Oui, mais nous, ce métabolite du benfluorex, il est en très faible quantité. » Oui, sauf que le benfluorex était donné à une dose 10 fois supérieure à celle de l'isoméride. Mmh. Et donc, il y avait 10 fois plus de norphenfluramine produit dans l'organisme par le Mediator. Du coup, on peut se dire que ce sont les mêmes médicaments. Et là où on peut en vouloir aux sociétés savantes ou aux administrations chargées de l'administration de la santé, c'est que tout le monde a été aveuglé et qu'on n'a pas vu ce qui aurait dû être évident.
On veut ou on ne veut pas voir? Le procès le dira.
Le procès le dira.
Vous vouliez aussi réagir, mais il faut que je redonne la parole à notre interlocuteur au téléphone.
Oui, ben effectivement, mais vous avez posé la bonne question. On est aveuglé ou on ne veut pas voir, on ne cherche pas à voir. Tout à l'heure, on a entendu Irène Frachon quand elle s'est dit « Mais tout de même, c'est pas possible. Toutes ces personnes qui ont cette hypertension artérielle pulmonaire ou ces problèmes cardiaques ne prennent pas d'isoméride, etc. puisqu'il n'y en a plus, mais il y a bien quelque chose. » Donc elle cherche, elle voit Mediator, elle se tourne vers Prescrire et elle voit que depuis des années, Prescrire dit « Attention, Mediator, c'est autorisé dans le diabète, etc. mais c'est une amphétamine qui va poser ces problèmes-là. » Donc il y a aussi la démarche d'aller se documenter, d'aller regarder les choses en face au lieu de se laisser bercer par les illusions du vendeur de médicaments.
Docteur Dominique Michel Courtois, quelles pathologies spécifiques ont été décelées, vous présidez donc cette aide aux victimes chez les patients qui prenaient du Mediator?
Bon, les principales pathologies qui ont été décrites, c'était effectivement les atteintes des valves cardiaques, d'une part, et l'hypertension artérielle pulmonaire. Et on a effectivement plusieurs milliers de victimes à l'association. Certaines ont simplement des problèmes de souffle cardiaque. Et d'autres ont eu des interventions chirurgicales graves avec transplantation de poumons et même cœur-poumon. Donc ça va des pathologies très minimes jusqu'à des pathologies qui se sont avérées gravissimes.
Alors quel témoignage, quel récit vous avez entendu justement parmi celles, parmi ceux qui sont constitués partie civile dans ce procès qui commence aujourd'hui, notamment sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'elles et ils attendent du procès ?
Alors effectivement, j'ai posé la question, si vous voulez, puisque on a déposé 900 plaintes pénales pour ce procès et on va en déposer plusieurs centaines d'autres au cours de la procédure puisqu'on en a la possibilité. Je pense que le plus important pour toutes, c'est la reconnaissance du statut de victime. Pourquoi ? Parce que pendant de nombreuses années, les laboratoires Servier, mais aussi des scientifiques et de nombreux cardiologues, ont nié l'existence de tout lien de causalité, justement entre la prise de médiator et ces problèmes d'atteinte des valves cardiaques ou d'hypertension artérielle. Les victimes, au procès, vont pouvoir s'exprimer. Et cette reconnaissance, à mon avis, du statut de victime qu'elles attendent, ne s'applique pas simplement aux victimes qui seront présentes au procès, mais aux centaines de milliers de personnes sciemment empoisonnées et qui présentent de lourdes séquelles cardiaques et qui n'ont fait aucune démarche et sont restées toutes seules avec leur maladie.
Docteur Dominique Michel Courtois, à vos yeux, ce procès du médiator, est-ce que c'est un petit peu le symbole de l'influence parfois trop grande des laboratoires sur les prescripteurs, à savoir vous, les médecins ?
Ça me paraît honnêtement totalement évident, parce que il y a quand même des questions, donc on en a posé certaines, qui se posent et pour, j'espère, nous obtiendrons des réponses. Pourquoi cette autorisation mise sur le marché après l'isoméride ? Pourquoi le remboursement par la sécurité sociale, par les différents gouvernements, de 76 à 2009 hein ? Comment le laboratoire Servier, et je venais d'en parler, a-t-il pu vendre le médiator comme médicament pour les diabétiques alors que c'était une amphétamine, hein? Comment ont-ils pu se jouer des autorités sanitaires et les rouler dans la farine? Parce qu'en fin de compte, pendant des années, l'ASAF n'a rien vu, n'a rien voulu savoir, ou a su et a fait comme il ne savait pas. Donc je pense quand même qu'il va falloir que des responsabilités apparaissent et qu'on en tire toutes les conclusions, bien que depuis le médiator, on a vu la dépakine, on a vu encore d'autres médicaments, et je crains qu'on n'en soit pas à la fin.
Et avec un élément important, c'est sur le volet aussi émotionnel, parce que d'un côté, il va y avoir les débats des spécialistes, des scientifiques, de l'administration, et puis ce ressenti des victimes. Justement, est-ce qu'il n'y a pas d'avance des attentes qui ne seront pas comblées ? Bien sûr, on ne peut pas y répondre au premier jour du procès, mais il y a quand même cette dimension humaine qu'on met en avant, que le docteur Irène Frachon a mis toujours en avant dans son rapport justement avec ses patientes, avec ses patients, avec énormément d'attentes de ce côté-là, c'est aussi, quand vous dites sur le statut de victime, c'est quelque chose d'excessivement important, docteur Courtois.
Effectivement, alors il y aura, c'est ce que je vous disais, il y aura celles qui pourront venir au procès, mais qu'elles ne se leurrent pas, même si ça dure 6 mois, toutes ne pourront pas exprimer, toutes ne pourront pas expliquer ce qu'a été leur vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout aussi, une grande partie est animée par une haine vis-à-vis du laboratoire Servier, que je peux comprendre, si vous voulez, la déception que M. Servier ne soit pas en personne sur le banc des prévenus, bien qu'il y a quand même, si j'ai bien compris, 14 prévenus et 11 personnes morales, donc ça fait quand même du monde. Mais je crois que c'est quand même la première fois dans tous les procès qu'il y aura eu que des victimes en grand nombre, pendant plusieurs jours, pourront s'exprimer. Moi, j'ai participé au procès contre les prothèses mammaires PIP à Marseille, puisqu'on en avait aidé plus d'un millier, et j'ai vu quand même ces victimes, le fait de raconter ce qu'elles ont vécu, de voir en face d'elles ceux qui sont tenus pour responsables, je crois que c'est une partie très très importante de leur reconstruction.
Merci beaucoup, docteur Dominique Michel Courtois. Je rappelle que vous êtes président de l'association d'aide aux victimes de l'isoméride et du médiator. Vous vouliez réagir, Bruno Toussaint ?
Oui, pour dire que dans les notices de médicaments, dans les boîtes de médicaments, il y a la notice avec des listes d'effets indésirables, parce que tous les médicaments ont beaucoup d'effets, quelques-uns positifs et beaucoup ou pas positifs. Bien. Et bien sûr, ils n'arrivent pas à tout le monde, ces effets-là. Mais tout ce qui est listé est vrai. Ça peut arriver à telle ou telle personne. Dans le cas de médiator, jusqu'à son retrait du marché en 2009 en France, il n'y a jamais eu un mot sur le risque des atteintes de valves cardiaques ni d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on conçoit facilement que les personnes qui ont été victimes de ce médicament se perçoivent si profondément victimes. Il n'y a jamais eu la moindre allusion, le moindre mot auquel s'accrocher pour dire « Écoutez docteur, peut-être que ce qui m'arrive, c'est à cause du médicament ». Il n'y a jamais eu ça.
Priorité santé sur RFI.
Le procès du médiateur qui commence aujourd'hui à Paris, sécurité sanitaire, affaires de santé publique, dissimulation aux dépens des patients. Nous sommes toujours en présence de nos deux invités, Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue Prescrire, et je me tourne vers vous, professeur François Chaste, président du comité des vigilances et risques sanitaires à l'hôpital Necker, sur cette question de l'influence, réseau d'influence, on entend beaucoup ce terme. Comment un groupe comme Servier a-t-il tisser ce réseau? Les gens ne savent pas forcément comment les laboratoires contactent les médecins et ont éventuellement des relations avec certaines instances, avec certaines autorités sanitaires.
Eh bien, vous savez, dans ce milieu qu'on pourrait comparer d'une certaine manière à ce que l'on a appelé autrefois le milieu militaro-industriel, il y a une forte perméabilité entre le monde académique et le monde industriel. Ce qui peut, à certains égards, se justifier dans le cadre des études cliniques des médicaments. Parce que lorsqu'un industriel met sur le marché un médicament, il a besoin d'essais cliniques. Il a même besoin après de la surveillance, dans la vraie vie de ces médicaments. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait une forme de proximité. Ce qui est en revanche inacceptable, c'est que cette proximité devienne une connivence entre les partenaires. Ce que l'on doit regretter, c'est que beaucoup de responsables de haut niveau médical, scientifique, soient aujourd'hui dans le box des accusés au tribunal de Paris. Ils auront à répondre d'un certain nombre de questions qui leur sont posées par les magistrats instructeurs et qui ont été retenues par le parquet. Et ce que l'on doit espérer pour l'avenir, c'est que le monde académique, le monde universitaire, le monde hospitalier prennent conscience que dans les activités qui sont celles de l'université, de l'hôpital, des administrations sanitaires, le malade doit être la priorité, doit être le cœur du sujet et le cœur des réponses que les experts doivent apporter. Les experts ne doivent jamais être des protecteurs de l'industrie, ils doivent être des protecteurs du patient. Et malheureusement, cette instruction du procès médiateur montre que beaucoup, beaucoup ont failli.
Est-ce qu'on en a vraiment fini avec ce type d'agissement, réseau, connivence, influence, Bruno Toussaint?
Et malheureusement, non, parce que dans les responsabilités dont on a parlé là, et notamment Monsieur Chaste, il y a des absents qui ne sont pas au procès, semble-t-il. C'est-à-dire que en France, en Europe, partout dans le monde, les choix politiques font que la recherche sur les nouveaux médicaments, la recherche clinique, c'est-à-dire les études des médicaments chez les personnes qui ont réellement le diabète ou un autre problème de santé, ces études sont confiées aux firmes pharmaceutiques. Il y a très très peu de recherche clinique publique. L'essentiel de la recherche est faite par les firmes pharmaceutiques. Donc mécaniquement, elles sont effectivement obligées de faire les essais cliniques, les études chez les patients, avec des vrais médecins, avec des vrais spécialistes, avec des vrais universitaires, pour étudier le médicament. Et cela crée mécaniquement de plus en plus de spécialistes de tel ou tel problème de santé ou de telle ou telle famille de médicaments, qui ont des liens d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Et quand ensuite il s'agit de prendre des décisions d'intérêt général d'expertiser le dossier d'un médicament pour savoir si on l'autorise ou pas, si on le rembourse ou pas, on trouve essentiellement des experts qui ont des liens d'intérêt avec tel ou tel firme pharmaceutique et dont le jugement est forcément influencé, biaisé par tous ces liens. Alors bien sûr, beaucoup disent « mais je sais faire la part des choses, mais pas jusqu'au bout ». Inconsciemment, il y a de la redevabilité, il y a de l'influence, il y a une surestimation diffuse de l'intérêt du médicament, de l'efficacité du médicament et une sous-estimation du danger du médicament. Si on reprend le cas du Mediator, il y a eu un essai comparatif dans les années 2000, ensuite de toutes les turpitudes, on va dire, de tout ce qui s'était passé dans les années 90, il y a eu un essai comparatif où le Mediator Benflurex a été comparé à un autre médicament antidiabétique, comme on dit. Et au final, avec échographie du cœur pour surveiller bien précisément l'état du cœur. Conclusion, au bout d'un an de traitement, il y a une personne sur six dont le cœur a été plus ou moins abîmé par le médicament Benflurex Mediator. Une sur six. Et pourtant, il a fallu des décennies avant qu'on signale les premiers cas, alors qu'il y a eu des millions de personnes traitées. Et pendant des années, la grande majorité, pas tous bien sûr, mais la grande majorité des cardiologues disaient « Non, c'est pas le médicament, c'est le rhumatisme articulaire aigu ». Et le patient disait « Mais je n'ai pas eu le rhumatisme articulaire aigu, mais c'est une forme atténuée, vous avez eu une angine et c'est ça ». Mais non, ce n'était pas ça. Le plus souvent, c'était ce médicament. Il y avait une incrédulité, voire plus fort, en tout cas, une grande difficulté à envisager que ce problème cardiaque puisse être dû au médicament. Alors que c'était une cause très fréquente, une personne sur six.
La sécurité sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, n'a pas survécu à ce scandale. Alors, il y a une nouvelle agence, Agence nationale de sécurité du médicament, qui communique et explique aujourd'hui qu'en créant justement cette nouvelle structure, les autorités font en sorte qu'une telle affaire ne puisse plus se reproduire. Est-ce que vous partagez ce point de vue, professeur François Chaste? Est-ce que l'agence fait la sécurité?
C'est difficile de répondre de manière péremptoire à une telle question. La santé, c'est toujours un domaine à risque. Si vous voulez, comme observateur de la vie du médicament depuis une cinquantaine d'années, je dois dire que je suis frappé par le fait que ce que l'on sait à un moment, il faut savoir se défaire de ses connaissances à un autre moment. Le monde scientifique évolue en permanence et un des enseignements de ces affaires, c'est que malheureusement, le monde scientifique trop souvent vit sur ses certitudes et qu'on ne sait pas, et les experts au premier chef ne savent pas remettre en cause les décisions qu'ils ont prises, les avis qu'ils ont donnés. Et ça, c'est un vrai problème de l'expertise scientifique en général et de l'expertise des médicaments en particulier. Et il faudrait que, à l'avenir, on puisse avoir dans la déontologie de l'expertise une capacité à remettre en cause en permanence, grâce à de nouvelles observations, à de nouveaux travaux scientifiques, des publications, ce qui a été affirmé autrefois et qui n'est plus vrai aujourd'hui. Ça, c'est très difficile.
Bruno Toussaint.
Oui, deux choses. C'est effectivement très important, c'est déterminant d'avoir assez de recul et d'esprit critique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des cardiologues, de beaucoup de cardiologues qui ne voyaient pas ce qui était évident sous leurs yeux, c'est-à-dire que c'était dû à un médicament. Et c'est une pneumologue qui leur montre, donc il faut avoir du recul. Et l'expertise dans un domaine, c'est surtout d'avoir du recul et de l'esprit critique et de se documenter. Ensuite, il faut vraiment que le financement de la recherche sur les médicaments évolue. Il faut que nos décideurs politiques, au niveau français, européen et au-delà bien sûr, réalisent que confier la recherche essentiellement aux firmes pharmaceutiques, ça met ces firmes nécessairement en état de conflit d'intérêts et ça déséquilibre trop les forces. Et là, pour votre question concernant l'Agence française du médicament, Nous avons l'impression à prescrire que beaucoup de personnes de l'Agence française du médicament défendent sincèrement l'intérêt des patients, mais il faut bien voir que leurs moyens sont très disproportionnés par rapport aux firmes pharmaceutiques. Le budget de fonctionnement de l'Agence française du médicament, c'est sans doute de l'ordre de 150 millions d'euros par an, mais le chiffre d'affaires de Servier, c'est plutôt 4 ou 5 milliards, et Sanofi, c'est plutôt une vingtaine de milliards, et ce n'est que les deux Français qu'il y a beaucoup de multinationales. Donc le rapport de force est terrible.
Professeur François Chasse, des règles de gouvernance plus exigeantes, qu'est-ce qui a changé ?
Alors, ce qui semble avoir changé au niveau de l'agence qui administre le médicament aujourd'hui, c'est la gestion des conflits ou des liens d'intérêt entre l'agence et les experts auxquels elle fait appel. Il est probablement trop tôt pour faire le bilan de cette politique de consultation d'experts déliés de liens éventuels d'intérêt ou manifestement objet de conflits d'intérêt. Moi, ce que je voudrais pour l'avenir, c'est que la France et plus généralement peut-être l'Europe, puisque on vit aujourd'hui beaucoup dans une ambiance européenne au niveau du médicament avec une agence
européenne du médicament.
Une agence européenne du médicament qui était à Londres et qui s'est délocalisée à Amsterdam depuis quelques mois. Eh bien, je voudrais que ces administrations voient en termes internationaux ce qui se passe. Il y a par exemple aujourd'hui un vrai scandale dénoncé aux États-Unis autour de l'utilisation des médicaments opiacés. Eh bien, Je trouve qu'on ne peut pas faire aujourd'hui l'économie d'un observatoire très pointu sur la manière dont les opiacés sont utilisés en Europe. Alors, il y a eu une enquête de la NSM il y a quelques mois qui a conclu que tout allait bien en France. Je n'en suis pas sûr. De la même manière que je voudrais que l'on travaille, par exemple, sur le paracétamol, ce médicament qui est très largement utilisé, y compris en automédication, probablement à juste titre, mais qui est un médicament qui, dans certaines conditions, peut s'avérer dangereux, et sur lequel, peut-être, on doit travailler, nous, la presse scientifique et médicale, nous, hospitaliers, universitaires, et les pouvoirs publics, pour donner des informations au public, alerter dans le sens d'une meilleure vigilance et d'une meilleure sécurité sanitaire.
Bruno Toussaint, je vais réagir, mais je voudrais qu'il nous reste quelques petites minutes pour d'autres questions. Je vous écoute.
Je vais tâcher d'être très court. Deux choses très différentes. Dans les choses qui n'ont pas assez changé, c'est qu'il y a encore beaucoup de visiteurs médicaux dans les hôpitaux. Et vraiment, c'est pas bien. C'est dangereux pour les gens. Mais dans les choses qui ont changé, c'est que depuis quelques années en France, il y a de plus en plus d'étudiants et d'associations d'étudiants comme l'ANEMF ou l'ISNAR IMG qui ont réalisé qu'il ne faut pas dépendre des firmes pharmaceutiques et qui ont dit non merci au financement, à leur financement associatif par les firmes pharmaceutiques.
C'est ça, c'est très positif. C'est important que ça vienne dès la formation.
Oui, c'est très important parce que ça prouve qu'ils ont compris une chose très importante, c'est l'importance de l'indépendance professionnelle et ne pas dépendre des firmes pharmaceutiques, les tenir à distance, travailler avec elles, bien sûr, parce que nous avons besoin d'une industrie pharmaceutique qui sait faire de bons médicaments sans rupture de stock, sans pénurie, c'est leur métier, mais il ne faut pas tout leur confier, et y compris pas le financement, bien sûr, de ces activités. Ça, c'est une chose. Deuxième, encore plus court, promis. Comme a dit Monsieur Chaste, il y a beaucoup de médicaments magnifiques. Mais vraiment, il faut toujours être prudent, toujours faire attention que le bénéfice du médicament est peut-être moins grand qu'on ne croit et que ses dangers sont toujours plus grands qu'on ne croit.
Alors justement, sur cette question de la confiance, hein, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que l'affaire du médiateur, à vos yeux, avec le recul, professeur François Chaste, bouleversait la relation non seulement entre le patient et le médicament, mais entre le patient et le médecin ?
Entre le patient et le médecin, je ne le souhaite pas. Je pense que les malades doivent faire confiance au système de santé. La condition pour cela, c'est que le système de santé soit à la hauteur et que les médecins aient un comportement, je dirais, d'indépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et que les pouvoirs publics soit également à la hauteur dans le sens de du jugement indépendant qu'elles pourront avoir vis-à-vis des firmes sans avoir à protéger tel ou tel pour des raisons économiques, sociales ou de proximité, d'amitié personnelle.
Bruno Toussaint, justement sur cette relation qui a un petit peu changé ces dernières années, bien évidemment, le patient est beaucoup moins passif qu'il ne l'a été par le passé, du moins certains d'entre eux, avec peut-être à la clé aussi un certain scepticisme qui peut parfois être préjudiciable en termes de santé publique. C'est ce qu'on a vu par exemple au sujet de la vaccination.
Oui, bien sûr, ce n'est pas simple le médicament. On ne peut pas tous les balayer, parce qu'il y en a de formidables, mais on ne peut pas non plus tous les prendre, parce qu'il y a aussi des médiators et encore sur le marché aujourd'hui d'autres médicaments qui sont plus dangereux qu'utiles. Il faut toujours faire le tri. Et pour ça, excusez-moi, pour ça, il faut, le mieux, c'est de prendre conseil, de discuter, de parler avec le médecin et le pharmacien. Le médecin, c'est l'expert de la médecine, de la santé, des maladies. Le pharmacien, c'est l'expert du médicament. Il faut dialoguer à trois pour cerner ce dont on a besoin, ce dont on souffre, quelle est la meilleure solution. Et un petit conseil pratique pour finir peut-être. En France, tout un chacun a accès au site internet transparence.santé.gouv.fr où on trouve les liens d'intérêt de tous les professionnels de santé avec les firmes pharmaceutiques. C'est important de savoir que tel ou tel professionnel de santé auquel on a affaire a eu ou a tel ou tel lien d'intérêt avec les firmes. Parce que on sait que ces liens d'intérêt biaisent le jugement et rendent généralement trop crédules face aux médicaments. Mais il y a des médicaments formidables et c'est pour ça que c'est dommage de se laisser, égarer en pensant que non, il ne faut pas de médicaments. Si, bien sûr. Et toute dernière chose, les médicaments, c'est les produits de santé les mieux évalués. Malgré tous les défauts du système, c'est tout de même le produit de santé le mieux évalué, bien mieux que les dispositifs médicaux ou les compléments alimentaires.
Par le biais des études cliniques, il nous reste quelques minutes. Professeur François Chaste, est-ce qu'aujourd'hui, dans la chaîne du médicament, le doute bénéficie davantage aux patients qu'aux fabricants que par le passé ?
Pas sûr. Je voudrais espérer que effectivement ces affaires soient à l'origine d'un renversement des alliances en quelque sorte, et que les pouvoirs publics aient comme seul point d'intérêt la santé, l'efficacité des médicaments. Comme le disait Bruno Toussaint, le médicament est un outil formidable pour la santé. On a évoqué tout à l'heure le diabète. Sans l'insuline, les patients, les jeunes patients décédaient en quelques mois, jusque dans les années 20 ou 1930. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un diabétique était identique à celle d'un autre patient. Le sida, qui a fait partie de notre génération.
Les antirétroviraux ont changé la donne.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que tous les malades mouraient en un an. Aujourd'hui, ils vivent. Et ils vivent plutôt bien. Et donc, ayons confiance dans nos médicaments et faisons en sorte que et l'industrie pharmaceutique et les pouvoirs publics nous aident à avoir confiance.
Le travail de la justice travaille en profondeur aussi de tous les acteurs de terrain. Merci infiniment à tous les deux pour ce débat très instructif et constructif. Professeur François Chaste, pharmacien des hôpitaux de Paris, président du comité des vigilances et risques sanitaires. Et à vous Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue Prescrire. Et merci à toute l'équipe qui prépare et fabrique votre émission. Demain dans Priorité Santé, la santé des dents, prévention, conseil pour des dents solides. Et vos questions, 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.